France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir, que faire des PFAS, ces polluants que l'on dit éternels tant ils sont résistants. La contamination aux PFAS est un défi pour la nature et pour la santé humaine. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, retenez que ces polluants éternels sont partout, dans l'air, dans l'eau, dans nos vêtements et même dans notre sang. Leur famille de molécules est très hétérogène à tel point qu'on ne sait pas encore déceler avec précision toutes les conséquences sur le vivant. Et si on ne sait qu'assez peu de choses sur ces PFAS, nous avons au moins une certitude, c'est qu'ils sont là pour longtemps. L'Académie des sciences vient de rendre une série d'avis, 5 recommandations, notamment pour avoir une meilleure traçabilité des PFAS et aussi une meilleure transparence. On va en reparler dans un instant avec nos invités. Alors, pourrons-nous un jour éliminer ces polluants éternels? En attendant, comment s'en prémunir? Que dit la loi? C'est le thème ce soir. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Et nous partons au standard pour un premier appel. C'est Benoît qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonsoir Benoît.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour la qualité de vos émissions et merci d'avoir pris ma question également.
Avec plaisir.
Moi, la question que je me pose, elle est assez simple et un tout petit peu angoissante. En fait, avec ma famille, mes enfants, on essaye de viser le zéro déchet, tout du moins de diminuer notre impact environnemental dans tout ce qu'on produit, dans tout ce qu'on consomme. Mais en fait, on a la sensation, quand on lit la presse et qu'on écoute vos émissions en particulier, que l'essentiel des polluants vient de très grosses structures ou du transport routier, par exemple, ou des infrastructures industrielles ou de l'agriculture. Et que nous, en tant que consommateurs, on a beaucoup de mal à avoir de l'impact, un impact réel sur tous ces enjeux-là. Donc ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut garder espoir, optimisme et comment dire, motivation dans cette situation.
Eh bien, on va essayer de vous donner un peu de motivation, justement, ce soir dans cette émission. Merci de ce témoignage, Benoît. Avec ce soir, 3 invités pour vous répondre. Bruno Chaudret, vous êtes chimiste et co-auteur du rapport de l'Académie des sciences sur les PFAS. Robert Barouki, médecin spécialisé en toxicologie. Et on verra avec vous quelles sont les inquiétudes, justement, de vos patients. Et Olivier Andreau, responsable du pôle alimentation de l'UFC. Que choisir? On verra avec vous les questions liées à la consommation. Bruno Chaudret, je vous adresse peut-être ce premier témoignage de notre auditeur qui parlait de pessimisme. On va pas être pessimiste ce soir, mais ça va pas être très drôle ce qu'on va raconter. Est-ce qu'il y a au moins une lueur d'espoir quelque part dans cette histoire de PFAS?
Alors oui.
Alors allez-y, parce que c'est maintenant.
Hein. Il y a une lueur d'espoir. Donc, la première chose, c'est que ces PFAS qui sont qualifiés de polluants éternels ne sont pas éternels. Donc ça, c'est une première chose. On sait maintenant qu'on peut les détruire sous certaines conditions. Il y a des publications récentes, tous ces travaux datent de 2024 à peu près, qui montrent qu'ils peuvent se filtrer naturellement dans l'environnement. C'est encore fragile, hein, mais il y a quelques exemples qui le montrent. Et puis, il y a des travaux récents aussi qui montrent qu'on peut commencer à détruire ces PFAS.
On va peut-être définir, qu'est-ce qu'on appelle PFAS? Ce sont des substances, alors j'ai révisé, hein, poly ou bien perfluoroalkylées. Qu'est-ce que c'est en fait?
Nous avons autour de nous des substances qui sont des hydrocarbures qu'on utilise, l'essence. Les PFAS, c'est une sorte d'essence, mais où on aurait remplacé tous les hydrogènes par des fluores. Donc ce sont des molécules qui ne contiennent ou qui contiennent majoritairement du fluor. Elles ont la propriété d'être extrêmement stables et une autre propriété qui est de repousser les attaques microbiennes ou les attaques d'autres molécules qui pourraient les détruire. C'est pour ça qu'elles sont très persistantes dans l'environnement.
Très résistantes, oui.
Mais pas éternelles.
Pas éternelles, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Docteur Robert Barouki, médecin spécialisé en toxicologie, quand on dit que les PFAS sont partout, ils sont même dans notre sang, chez l'adulte comme chez l'enfant?
Absolument, comme beaucoup de choses qui sont dans l'environnement, qui finissent aussi dans notre sang, par l'alimentation, par l'eau, par l'air. Enfin bon, on retrouve des PFAS, et ça, il y a plusieurs études européennes et françaises et internationales qui l'ont bien montré. On arrive à retrouver les PFAS dans le sang, et sans doute donc dans les autres tissus de notre organisme. Et on a parlé de la structure chimique. Cette structure chimique fait qu'on ne sait pas les dégrader. Hein. Le fait qu'il y ait du fluor collé à un carbone, ça, c'est quelque chose qui fait que notre organisme, qui a des moyens de défense extraordinaires, hein, on sait se débarrasser de beaucoup de choses, eh bien, cette liaison-là fait qu'on n'arrive pas à les dégrader, ce qui fait qu'ils restent longtemps, y compris dans notre corps.
Olivier Andreau, justement, au pôle alimentation de l'UFC, que choisir ? Ces polluants éternels, nous les ingérons donc aussi en mangeant, notamment à travers les produits de la mer, je disais, les œufs et le poisson. Ça, c'est pas terrible pour les PFAS, pour
nous ? Oui, effectivement, les abats, et puis un petit peu à travers l'eau du robinet, mais aussi...
On va parler de l'eau. Hein.
Mais il n'y a pas que ça, hein, malheureusement. Hein, l'UFC Que Choisir, il y a 2 ans, a fait un test comparatif pour essayer de voir si, quelle est la proportion de produits du quotidien non alimentaire dans lesquels il y a des PFAS. Et donc, nous avons testé la présence de PFAS dans 30 produits, donc des vestes déperlantes, des gants de ski, des pantalons, des imperméabilisants, des tapes anti-tâches. Et malheureusement, la proportion est assez inquiétante. C'est la moitié des vestes imperméables ont des doses de PFAS qui sont jugées préoccupantes, la moitié des gants de ski, un tiers des pantalons de ski, la moitié des substances imperméabilisantes qu'on peut acheter et la quasi-totalité des nappes anti-tâches. Donc voilà, c'est ça, c'est des objets du quotidien très communs qui vont contribuer au fait que, par exemple, dans un autre test que nous avons réalisé sur les poussières, on a analysé les poussières de 56 intérieurs. Hein, donc, on a demandé à nos lecteurs de bien vouloir nous envoyer la poussière qu'ils ont chez eux. Eh bien, dans 80% de ces intérieurs, ces poussières contiennent du PFOA, donc, qui est un composant qui est classé cancérogène certain. Et 93%, eh bien, c'est du PFOS, un cancérogène possible. Donc, effectivement, c'est par le biais de ces contaminations multiples que ça se retrouve, in fine, dans notre corps.
On va retourner au standard. 01 45 24 7000 à France Inter. Eric est en ligne. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir. En lien avec ce que disait Benoît, l'auditeur précédent, ma question est la suivante. Peut-on réellement lutter contre les PFAS en allégeant les contraintes environnementales de l'agriculture ? Parce que j'ai l'impression que d'un côté, on lutte contre l'impact de la chimie et que de l'autre côté, on l'encourage.
Alors là, on va peut-être... Merci beaucoup de ce témoignage. On va peut-être un peu s'intéresser à l'eau et aux pesticides. Je m'adresse à vous, Olivier Andreau. 2020, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, l'EFSA, avait évalué les risques de contamination. Et ça passe donc par l'eau qui contient trop de pesticides dégradés. Pesticides dégradés, ce sont des polluants éternels, ce sont des PFAS.
Alors, et ça peut, hein, donc les PFAS, donc c'est une classe, hein, de molécules, hein, qu'on peut utiliser, comme on l'a dit, dans plein d'utilisations. Et effectivement, certains pesticides ou certains résidus de pesticides sont classés en PFAS. Donc, par exemple, le TFA, donc l'acide trifluoroacétique, qui est très souvent rencontré. À l'UFC Que Choisir avec Génération Future, eh bien, on a voulu tester la présence de PFAS dans l'eau du robinet. Donc, on a fait un coup de sonde, hein, puisque actuellement, il n'y a pas encore, hein, de normes qui s'appliquent sur l'eau. Hein, ça ne fait pas partie du plan de contrôle officiel des agences régionales de santé. Et étant donné que bien, la France a choisi un niveau de normes qui est quand même relativement, on peut dire, plus élevé, moins sévère que ce qu'ont pu choisir des pays européens, eh bien, nous avons voulu voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, si on prend l'approche française, eh bien, sur la trentaine de prélèvements que nous avons réalisés, c'est RAS, rien à signaler. Mmh. En revanche, si on prend l'approche américaine, eh bien, déjà, il y a, sur les 30 prélèvements, il y en a 6 qui seraient jugés comme non conformes. Et si on prend une approche maximaliste comme celle des Danois, c'est 80% de nos conformités. Donc, nous, on n'est pas des toxicologues, on n'est pas des épidémiologistes, mais on dit, mais regardez, il y a quand même un certain hiatus, d'autant plus que le Conseil supérieur de l'hygiène publique de France a conseillé aux autorités françaises bien d'être plus sévères dans les normes qu'ils vont mettre en œuvre sur l'eau du robinet.
Bruno Chaudret, pour l'Académie des sciences, les pesticides et les TFA, hein, c'est ça la dénomination ?
Le TFA.
TFA. La France aurait un seuil acceptable de polluants éternels dans l'eau trop permissif comparé à d'autres pays ?
Les normes ont été fixées. Elles ont été fixées, mais elles ne sont pas fixées sur des bases toxicologiques. Donc, permissif ou pas, ça dépendra des études de toxicologie qui seront menées. L'acide trifluoroacétique, c'est un produit qui ne se comporte pas comme les autres PFAS. C'est un produit qui migre très facilement, c'est un acide, et qui devrait présenter une toxicologie plus faible. Je suis très très prudent, puisque nous n'avons pas de certitude dans
le domaine. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer ce soir, c'est que finalement, des études ont été menées, mais nous n'avons malheureusement que très peu de recul face à l'étendue, hein, ça se compte par milliers, je crois, le nombre de molécules PFAS de ces polluants éternels, et finalement, assez peu de retours d'expérience scientifique.
C'est ça. Il y a énormément de molécules qui interviennent dans énormément de domaines. Par exemple, on trouve des PFAS dans les batteries automobiles pour les voitures électriques, dans les batteries pour les vélos électriques. Et ces PFAS sont plus facilement peut-être disséminés dans la nature que ceux qui résultent des vêtements comme les imperméables. Ce qu'il faut voir aussi, j'aimerais juste dire un mot sur une chose, c'est qu'on trouve du fluor aussi dans les meilleurs médicaments anticancéreux à l'heure actuelle. Donc, il y a du fluor qui est mauvais, il y a du fluor qui est bon. Donc, la recommandation, une des recommandations de l'Académie, c'est de bien faire attention à ne pas avoir de décisions trop brutales, dans la mesure où on a besoin...
De vous parler des décisions politiques, d'interdire des produits et pas d'autres.
De produits fluoreux.
Ouais. Docteur Robert Barouki, en termes de PFAS, est-ce qu'ils ont tous le même degré de dangerosité ?
Écoutez, il y a 10 ou 15 000 PFAS actuellement connus, donc le chiffre évolue. Hein. Moi, j'ai connu 4 000, puis 10 000, puis 15 000.
Oui, j'ai du mal à avoir une certitude aussi sur le nombre de milliers.
Rassurez-vous, on est dans le même cas, mais enfin, il y en a beaucoup. Et on sait beaucoup de choses sur 4 PFAS, on sait pas mal de choses sur 20 à 30 PFAS, et on sait quasiment pas grand-chose sur tout le reste. Donc, quand on dit les PFAS sont dangereux, on parle surtout de quelques PFAS dont on a PFOA, PFOS et toute la liste, jusqu'à une trentaine qui sont étudiées. On ne va pas pouvoir faire les mêmes études sur les 10 000 ou 15 000 restants. Donc là, on est obligé de faire par analogie ou de s'aider un jour de la modélisation, de l'intelligence artificielle pour essayer de savoir quelle est l'étendue du problème.
L'étendue est tellement vaste.
Ou de prendre une décision un peu générale. Mais évidemment, s'il y a parmi eux des molécules qui ont un intérêt, et là c'est la notion de bénéfice-risque qui doit être privilégiée.
Un plan assez général.
Comme pour tous les médicaments.
Aussi ce que préconise l'Académie des sciences. On va en parler tout à l'heure avec Bruno Chaudret. On retourne au standard avec Patrick. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Vous nous appelez de l'Isère.
Oui, j'appelle de l'Isère, oui. J'avais deux questions. Est-ce qu'on a une idée du millier de tonnes de PFAS produites et utilisées en France et voire en Europe, s'il y a des chiffres? Et l'autre chose, c'est comment on met des molécules sur le marché sans connaître les conséquences. De la même manière qu'on met un médicament qui a une AMM parce qu'on a fait des études et on connaît les conséquences, là on met des molécules dont on ne connaît pas les conséquences et on les met sur le marché sans savoir ou en occultant ce qu'on sait.
Bien, merci pour ces deux questions. On va les prendre dans l'ordre. Je vais peut-être me retourner vers Bruno Chaudret, co-auteur du rapport de l'Académie des sciences sur les PFAS. Combien de tonnes de PFAS, je ne sais pas si c'est en tonnes, mais combien de PFAS en France et en Europe?
On peut le savoir, mais
vous n'avez pas le chiffre précis. Bon.
Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les PFAS ne sont pas des produits naturels. Hein. Donc ils ne sont produits
sont des substances
que dans quelques
chimiques.
Usines chimiques qui sont bien répertoriées donc, et qui sont enregistrées. Donc on connaît ces chiffres. On a, oui, une production de PFAS. Et si on a une production de PFAS, c'est parce que il y a des usages derrière, comme comme la transition énergétique qui repose beaucoup sur les PFAS.
Oui, on va parler des piles à combustible, les pompes à chaleur et les batteries. La question de l'auditeur, Bruno Chaudret, la question de l'auditeur était pourquoi autoriser à mettre sur le marché des molécules dont on ne connaît pas tout au final et qui peuvent s'avérer dangereuses ? Pourquoi autoriser ça ?
C'est une bonne question. Et je dois dire que ce n'est pas du ressort de l'Académie des sciences.
Bien sûr, je vais vous parler des produits industriels.
Ce qu'on a voulu faire, c'est donner exactement l'état des connaissances actuelles, sans minimiser les risques, mais sans non plus les maximiser et inquiéter. Mais oui, c'est une bonne question. Et
ben, je vais la poser aussi à Olivier Andreau, pourquoi pas à l'UFC Que Choisir. Les consommateurs demandent des produits et donc on met des produits avec des molécules dangereuses dedans parce qu'il y a une demande.
Alors moi, j'inverserai la question. Est-ce que vous avez déjà vu des manifestations de consommateurs réclamant à corps et à cri des poils qui n'attachent pas ? Je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que vous avez des industriels qui créent ex nihilo des produits avec de nouveaux services dont certains sont utiles, d'autres sont futiles, mais qui peuvent s'appuyer sur effectivement l'utilisation de ces molécules. Donc en fait, il faut inverser le problème, c'est-à-dire que la question est-ce que les industriels doivent systématiquement, et l'industrie chimique, continuer chaque année à produire de nouvelles molécules de PFAS ? On évoquait ce chiffre croissant, actuellement on serait probablement, mais peut-être plus, à plus de 15 000 PFAS. Et sur la procédure, la question, je vais revenir sur la question intéressante de notre auditeur. On a sur certains domaines de la consommation, certains produits, certains types d'utilisation, des procédures d'autorisation qui sont assez cadrées. Ils disent qu'avant de mettre sur le marché ou d'utiliser des molécules chimiques, elles doivent suivre un processus de validation. Sauf que ce processus, il est basé sur quoi ? Sur des études toxicologiques qui ne sont pas réalisées par le fabricant de cette molécule, mais qui sont quand même financées par lui. Donc il va financer des laboratoires dits indépendants.
Mais qui sont financés par l'industriel ?
L'industriel fabricant de cette molécule. Ces laboratoires dits indépendants vont transmettre à cet industriel les analyses donc toxicologiques et on peut espérer que cet industriel transmettra la totalité des analyses toxicologiques qu'il a fait réaliser et les transmet aux autorités européennes ou nationales pour autorisation. Ces autorités, elles, ne vont pas faire de contre-analyse la plupart du temps, elles se contentent de lire ces études qui montrent qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça, il y a un biais majeur dans ce processus d'autorisation.
Docteur Robert Barocchi, vous souhaitiez réagir, peut-être oui. Répondre à l'auditeur ?
Oui, en fait, il y a évidemment des tests qui sont faits. Hein, et ils sont très cadrés. Ce sont des tests bien dits réglementaires. Ils sont extrêmement cadrés. Et tout ceci est revu par les agences sanitaires européennes ou nationales qui finissent par autoriser. Mais ces tests concernent un certain nombre d'effets. Hein, ils ne couvrent pas la totalité des pathologies parce que, par définition, ils doivent être très cadrés. Ils sont faits d'une manière bien précise. Ensuite, il y a toute la recherche académique qu'on fait, par exemple, à l'INSERM, chez nous. Toute la recherche académique qui va s'intéresser à des effets qui n'étaient pas nécessairement dans les tests initiaux. Et c'est à partir de là, parfois, qu'on redécouvre des impacts qui n'étaient pas prévus initialement, ou même pas testés. Et c'est comme ça que l'un des impacts d'PFAS les plus importants actuellement, c'est l'effet sur le système immunitaire, c'est-à-dire on réagit moins bien au vaccin. Quand on a beaucoup de PFAS dans le sang, ça, c'est pas quelque chose qui est testé initialement. Il a été découvert après. Et donc,
redites-nous ça, c'est-à-dire que les PFAS ont une grande capacité à perturber nos réponses immunitaires, mais avec quelles conséquences au final ?
Alors, les conséquences actuelles qu'on connaît, c'est une mauvaise réponse au vaccin quand on a un certain taux de PFAS dans le sang. Sans doute, c'est un peu moins, disons clair, une plus grande susceptibilité à l'infection. Donc ça, c'est les choses qui sont établies dans la littérature scientifique. Mais bon, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on se base pour calculer, disons, le seuil au-dessus duquel il ne faut pas être quand on a du PFAS dans le sang.
Les PFAS, c'est perturbateurs, j'allais dire, ces polluants éternels. Comment s'en prémunir ? On en parle ce soir jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, Gilles est en ligne. Vous nous appelez des Hautes-Alpes. Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vos intervenants. Moi, je me pose la question des PFAS dans les vêtements. Par exemple, ce qu'on met en vêtements comme polyester, tous les polyamides, Et puis les combinaisons de plongée. Alors, je me suis un peu renseigné, hein, je sais qu'il y en a dans les poils anti-adhésifs, et j'ai supprimé ça depuis une vingtaine d'années. J'étais très en colère quand j'ai appris qu'il y avait des bisphénols dans les biberons de ma fille il y a plus de 20 ans. Donc voilà, et j'essaye de me documenter un maximum, mais c'est difficile d'avoir les informations. Et alors, je voulais poser la question à vos chimistes, justement, sur les polyesters qu'on porte sur nous, puisqu'il y en a de plus en plus, quoi.
Ben, merci de cette question. On l'a un peu abordé au début. En fait, les PFAS, les polluants éternels sont partout, particulièrement, je me retourne vers vous, peut-être Bruno Chaudret, à l'Académie des sciences, particulièrement dans tout ce qui est poly, hein, polyester, polyamide, pas bon.
Non, les polyamides et les polyesters, c'est une autre structure chimique.
Ah ben là, vous
mais
allez rassurer notre auditeur.
On les trouve renforcés dans ce qui sont les vêtements imperméables grand public qui permettent à l'oxygène de passer. Il y a un nom d'entreprise qui est derrière, mais je crois qu'on ne va pas le dire à l'antenne.
Qui fait du téflon.
Mais ce que je veux dire, c'est que la recommandation première de l'Académie des sciences dans le rapport, c'est la transparence.
Oui.
C'est-à-dire qu'on propose la traçabilité. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a très peu d'usines qui fabriquent ces molécules. Donc on peut en principe suivre le devenir de ces PFAS dans l'environnement et dans les usages. Si on mettait en place un étiquetage comme on peut le faire pour d'autres produits, on pourrait suivre l'évolution de ces PFAS dans l'environnement.
Donc plus de traçabilité.
Peut-être qu'on reviendra aussi sur
la transparence.
Ce qu'on peut recycler.
Et le recyclage, évidemment, on va en parler. Olivier Andreau, pour l'UFC Que Choisir, je reviens aux inquiétudes de notre auditeur. Vous avez une réponse à lui donner?
Oui, je crois qu'on peut déjà donner des éléments, des conseils consuméristes au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, il l'a dit lui-même, il faut éviter les ustensiles de cuisine qui sont revêtus avec des revêtements anti-adhésifs. On sait pourquoi, hein, donc là, il y a présence de PFAS. Donc ça veut dire préférer des composés classiques, céramique, aluminium, fonte, cuivre, fer, acier. Éviter les emballages alimentaires typiques barquettes micro-ondes ou fast-food, hein, ça on sait qu'il peut y en avoir. Laver les vêtements avant de les porter, notamment essayer d'éviter des vêtements qui ont subi un traitement imperméabilisant ou déperlant, parce que nos tests comparatifs ont démontré la présence de PFAS. Alors, il peut y en avoir aussi dans certains cosmétiques, dans certains produits d'entretien. Donc, si vous avez notamment des enfants, donc si vous êtes pour les auditrices enceintes, préférez plutôt les produits bio. N'utilisez pas vous-même des sprays imperméabilisants pour imperméabiliser vos chaussures, vos vêtements. Et puis, dernière chose, évitez les tissus d'ameublement avec des traitements anti-taches.
Merci de ces précisions. On retourne au standard. Nathalie est en ligne. Bonsoir, Nathalie.
Oui, bonsoir. Ma question portait sur est-ce qu'on sait si les PFAS sont des perturbateurs endocriniens ? Puisque les perturbateurs endocriniens sont plus nocifs pour la santé humaine suivant certaines fenêtres d'exposition, par exemple pendant la grossesse, pour l'enfant à naître, dans les premiers jours de vie, pendant la puberté. Donc voilà, bon, le Diciben, c'est un modèle de perturbateur endocrinien. On sait que les conséquences se voient à long terme. Qu'en est-il pour les PFAS ?
Merci de cette question, Nathalie. Le docteur Robert Baroucki vous répond.
Oui, Nathalie est très au courant, manifestement. Ce sont des perturbateurs endocriniens, en effet. Ils ont des effets qui sont maintenant caractérisés, notamment pendant la grossesse. Hein, donc, petit poids à la naissance. Il y a une étude de collègues de l'INSERM récemment qui a montré qu'on retrouvait des PFAS dans le placenta et qu'il y avait une perturbation de l'architecture placentaire.
Donc, ça veut dire que les femmes enceintes confrontées aux PFAS font des enfants plus chétifs.
Oui, donc c'est une des conséquences. C'est les enfants grandissent et se rétablissent, mais c'est le
au
poids
départ,
de naissance,
ils sont,
le poids de naissance est
un poids plus faible.
On sait aussi que ça touche un autre système endocrinien, la thyroïde. Donc là aussi, il faut un peu être vigilant. Donc c'est effectivement un perturbateur endocrinien.
Je disais maladie hépatique et rénale également.
Alors, ça peut donner des maladies hépatiques et rénales, certains cancers, pour certains PFAS. Et à nouveau, quand on dit les PFAS, on parle des 4 ou 5 qui ont été les plus étudiés, ou de la vingtaine qui a été un peu moins étudiée. Ça ne concerne pas tous les autres qui n'ont pas été étudiés. Donc, oui, des cancers, surtout pour le PFOA, un peu moins pour le PFOS, des maladies métaboliques, c'est-à-dire un peu plus de cholestérol dans le sang, par exemple.
Également des problèmes liés aux testicules et donc peut-être aussi des problèmes sur la reproduction et même le développement.
La fertilité et le développement, ça fait partie sans doute du caractère perturbateur endocrinien et c'est une des conséquences de ce caractère perturbateur endocrinien. Il existe aussi des cancers du testicule qui ont été rapportés associés à des PFAS dans certains cas.
Bruno Chaudret, co-auteur du rapport de l'Académie des sciences sur les PFAS, pas mal de questions sur comment dépolluer. Je vous pose la question, Bruno Chaudret, comment envisager de dépolluer des sites contaminés aux PFAS, sachant qu'aujourd'hui le coût financier serait sûrement exorbitant?
Alors, ça dépend. Ça dépend. Ce qu'on sait faire, déjà, on sait filtrer l'eau sur charbon actif. Et quand on filtre l'eau sur charbon actif, déjà, on enlève la grande majorité des PFAS. Il y a eu une expérience à Rumilly, où on fabrique des poêles qui n'attachent pas. Et où l'eau était très contaminée au PFAS, quand on a mis en place une filtration sur charbon actif, on a vu la pollution au PFAS diminuer drastiquement. Donc on peut faire ça. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est ce qu'on a recommandé, hein, c'est d'avoir un contrôle des rejets des PFAS, interdire tous les rejets industriels, et donc aussi récupérer tous les vêtements, etc., contaminés au PFAS. Comment on peut remédier? On est au niveau de la recherche. Il y a quelques pistes à l'heure actuelle qui sont, par exemple, d'utiliser la sonochimie. La sonochimie, c'est les ultrasons qui vont apporter beaucoup d'énergie pour détruire les PFAS. Une autre étude très très récente qui est sortie le mois dernier montre que à l'état solide avec des phosphates sont des produits très courants et qui sont pas toxiques
et qui vont absorber les PFAS,
qui vont absorber et détruire la liaison carbone fluor.
C'est l'autre bonne nouvelle.
Il y a très peu de molécules qui peuvent faire ça. Les phosphates peuvent le faire à l'état solide, sans utiliser de solvant. Et donc ça, c'est une piste de recherche qui est très intéressante.
Vous nous disiez au début d'émission que les polluants n'étaient pas éternels. Vous nous apprenez ce soir en plus qu'on peut dépolluer, c'est possible.
Ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelques méthodes qui ont été publiées, qui vont nécessiter un travail de recherche conséquent. Et une autre des recommandations du rapport, c'est qu'on a vraiment besoin de faire un très très gros effort de recherche, que ce soit pour la remédiation ou pour les études toxicologiques.
Ça fait partie des recommandations d'ailleurs de l'Académie des sciences, d'envisager de mettre en place des recherches pour vraiment avoir une politique coordonnée là-dessus?
Oui, et une politique aussi de substitution des PFAS. Partout où c'est possible.
Olivier Andreau, pas mal de questions également sur cette loi qui a été votée contre les risques liés au PFAS, avec un contrôle accru de l'eau, une taxe pollueur-payeur qui est prévue. Est-ce que tout ça, du côté de l'UFC Que Choisir, vous semble à la hauteur des enjeux?
Écoutez, c'est une loi, il faut quand même le dire, qui est très courageuse, hein, puisque à notre connaissance, c'est quand même en France, nous sommes le premier pays à prendre à bras le corps cette problématique. Parce que qu'est-ce qu'est dit cette loi PFAS, ou également appelée loi Thierry, qui a été votée le mois dernier? Premièrement, elle interdit la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché au 1er janvier 2026, c'est-à-dire très bientôt, des PFAS. Alors pas dans tous les produits, mais déjà dans les cosmétiques, dans les fartres vêtements de ski, dans les textiles destinés aux vêtements, les chaussures, les imperméabilisants. Donc c'est déjà très bien. Et en 2030, ça sera dans tous les textiles.
Tous les textiles en 2030 ne vont contenir aucun PFAS.
Exactement.
Hein. Mais on se met le doigt dans l'œil ou c'est possible?
Écoutez, à partir du moment où la loi le demande, un comptez sur nous à l'UFC que choisir pour faire des tests comparatifs. Enfin,
la loi demande aussi dans les poils non adhésifs de ne pas mettre de PFAS. Il y a des poils réputés pour avoir. Non, c'est fini.
Justement, alors là, donc, vous avez bien vu dans le listing que je vous ai donné, cosmétiques, fards, textiles. On ne parle pas des poils. Il y a eu effectivement une exemption qui a été demandée par un lobbying d'un certain industriel qui a réussi.
Qui a du téflon sur ses poils pour.
Et voilà, donc il n'est pas pris en compte dans cette loi. Effectivement, c'est tout à fait regrettable, mais il faudra qu'on revienne là-dessus. Deuxième chose que demande cette loi, et ça c'est très important, elle demande au gouvernement de définir une trajectoire de réduction des rejets des PFAS avec un arrêt total d'ici 2030 et en attendant la mise en place d'une redevance pollueur-payeur. C'est-à-dire, plus un industriel rejette du PFAS dans la nature, plus il devra payer. Et ça, c'est une très bonne chose.
Pollueur-payeur, ça fait ses preuves parfois. Au standard, Ariel nous appelle de l'Isère. Bonsoir Ariel.
Oui, bonsoir.
Votre question ou témoignage?
Alors, les deux.
Mais allez-y. En fait,
voilà, j'habitais à Rumilly, donc, à côté d'une grande usine qui fabrique donc ces fameux poils.
Au Téflon.
Et d'autres choses, voilà, au Téflon, et même d'autres choses, parce que c'est, enfin, voilà, c'est une grande usine. Et effectivement, on est resté en lien avec des gens qui travaillaient là-bas et qui sont malades, qui ont développé des cancers ou qui ont développé des tumeurs. Et un petit peu plus haut, à côté de Thônes, toujours en Haute-Savoie, il y avait une usine qui faisait des cuisines et qui déversait aussi assez souvent dans le Fier. Toutes ces eaux qui étaient contaminées par les PFAS aussi. Donc, moi, j'abonde un peu dans votre sens en disant je ne comprends pas qu'on laisse cette marque fabriquée encore et exportée aussi.
Pardon de vous couper, mais on ne peut pas faire comme ça de façon un peu brutale, sans connaître le dossier, corrélation évidente entre l'usine et les cancers dans la région. On va éviter de faire des caricatures, mais j'entends bien tout de même ce que vous dites et je vais renvoyer une partie de votre question à notre médecin qui est présent ce soir, Robert Barouki. Est-ce qu'il y a des profils ou des catégories de population plus exposées que d'autres aux PFAS?
Ça dépend beaucoup, en fait, de l'alimentation. Hein. Donc, on a dit, si une population mange plus de poissons ou des œufs, on va avoir plus de risques d'être contaminé par les PFAS. Quand on a étudié ça au niveau européen, on trouve, par exemple, que chez les Nordiques, il y a plus de PFAS que chez les gens qui habitent au sud de l'Europe. Bon, pourquoi? Sans doute des poissons gras, etc., qui expliquent cette différence.
Attends, je vous posais la question. Pour quelle raison la présence du PFAS est très élevée parmi les chasseurs inuits de l'est du Groenland?
Ça dépend de leur alimentation. Hein. Donc, s'ils ont une alimentation.
Ce sont les poissons là-bas.
Voilà, alors on est surpris. Il n'y a pas que les PFAS. Il y a beaucoup de polluants d'autres que PFAS, les dioxines, les PCB, qui voyagent beaucoup. Et on en trouve chez les Inuits parce que certaines de ces substances se retrouvent dans le gras de l'animal, d'autres dans le reste du corps de l'animal, chez le poisson notamment. Et ces Inuits, ils ont une certaine consommation qui fait qu'ils ont des taux élevés, ce qui peut paraître surprenant, alors qu'il n'y a aucune usine à côté qui produise des PFAS.
Olivier Andreau.
Moi, je pense que dans la question de notre directrice, il y avait quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, où y a-t-il en France et en Europe des sites dans lesquels il y a des PFAS ou des sites anciens dans lesquels il y a eu des activités industrielles qui ont relargué des PFAS? Et vous avez vu qu'il y a eu un grand quotidien qui est associé à des médias européens qui a publié une enquête très intéressante qui montre qu'on a de l'ordre de 17 000 sites potentiellement contaminés à des niveaux inquiétants et 2 000 hotspots, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec des niveaux dangereux. Et par rapport à ça, un élément important aussi de cette loi PFAS dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'elle prévoit, donc prochainement, à partir de 2026, la publication de cartes en ligne permettant de recenser tous les sites émetteurs, actuels ou anciens. Donc ça aussi, c'est important pour les citoyens et les consommateurs au niveau local pour savoir s'ils sont proches ou pas d'un site dans lequel il y a relargage de PFAS.
Il nous reste très peu de temps, on va aller rejoindre Olivier au standard. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Merci de prendre mon témoignage. Comme je dis sur le message WhatsApp, je reviens d'une conférence à Francfort où on a passé 3 jours à parler des PFAS et autres polluants émergents, notamment dans le domaine de la remédiation. Et je voulais juste commenter sur le fait qu'il y a énormément actuellement, depuis déjà quelques années, de recherche et de développement qui se font en Europe, en France, aux États-Unis, Canada, Australie, enfin. Et je voulais essayer de rassurer un peu tout le monde, c'est que les solutions arrivent. Il y a vraiment énormément d'investissements qui sont faits dans ce domaine.
Merci beaucoup de ce témoignage. Bruno Chaudret, vous avez remis ce rapport il y a quelques jours de l'Académie des sciences sur les PFAS, en mettant le doigt sur le fait qu'il y avait assez peu finalement de retours d'expérience scientifique. Notre auditeur qui rentre d'un colloque à Francfort nous dit « Mais si, ça existe, des recherches en Europe, en USA, Canada, Australie, ça existe ».
Bien sûr. Non. Et donc, ça existe, ça commence. Il y a beaucoup, depuis peu d'années quand même, des recherches qui se font dans le domaine de la remédiation.
Alors, mais il faut expliquer la remédiation, ce que ça signifie.
On a besoin vraiment d'un très gros effort de recherche et sur la substitution, c'est-à-dire de remplacer les produits fluorés par des produits qui ne contiennent pas de fluor. On n'a pas parlé des mousses anti-incendie, qui sont un gros problème de pollution PFAS, mais qui sont quand même extrêmement utiles pour arrêter des incendies. Dans ce domaine-là, il y a des recherches pour remplacer les mousses anti-incendies fluorées par des non-fluorées, et il y a des produits qui commencent à arriver sur le marché. Donc, la recherche avance, mais il faudrait quand même qu'il y ait un plus gros effort de recherche dans le domaine.
Et ça fait partie de vos recommandations de l'Académie des sciences. Il nous reste 20 secondes pour répondre. Je vais poser la question à Olivier Andreau en quelques secondes. Y a-t-il un lobbying des industriels pour ne pas s'intéresser trop à ces polluants éternels ?
Écoutez, il y a des lobbies partout. On voit qu'ils ont réussi à diminuer la portée de la loi Thierry, la loi PFAS. Pour autant, il faut continuer à mettre la pression et je pense qu'on y arrivera.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir éclairé nos auditeurs de France Inter sur ces PFAS, ces PFAS, ces polluants éternels qui n'ont pas bientôt fini de nous encombrer, quoique. Enfin, c'est pas pour tout de suite. C'est la fin de ce téléphone sonne. À suivre, l'heure philo, ce sera votre heure philo. Patricia Martin, bonsoir.
Bonsoir, Éric Delvaux.
Sur quel thème ce soir ?
Du lourd, hein. Vous avez vu les livres, c'est Anna Arendt, à un moment très précis de sa vie où elle était en exil à Paris. Elle a vécu à peu près...
Aux
États-Unis, mais c'est à Paris.
À Paris, plutôt, c'est plutôt son exil à Paris quand elle a quitté l'Allemagne.
C'est de cette période-là qu'on
pour va, se réfugier, effectivement, à Paris. Leur philo après le flash de 20h, à tout à l'heure, Patricia Martin. Ce sera après les petits bateaux qui ont toujours une bonne question à poser.
Bonjour, je m'appelle Auguste et j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi... On a inventé l'argent.